Radio Cité Genève. Genève, c'est vous. Midi El Aboudi.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Genève, c'est vous. Et Genève, c'est vous. Aujourd'hui, Tiziana Bellucci, vous êtes la directrice de la Fondation Action Innocence. On a déjà parlé de vous, de la Fondation dans les trois précédents numéros de Genève, c'est vous. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Vous travaillez pour prévenir, pour sensibiliser aux risques et aux dangers d'Internet, notamment sur nos enfants, sur nos adolescents. Vous faites ça très bien depuis des années maintenant à Action Innocence. Et on parlait à la fin de l'épisode précédent, justement, du développement un petit peu des contrôles parentaux qu'on peut mettre sur les différents appareils que nos enfants utilisent. Est-ce que justement vous avez des contrôles parentaux peut-être à nous recommander, parce que il existe de tout finalement. Il y en a qui contrôlent la durée d'écran, il y en a qui contrôlent le contenu même de ce qui se passe sur l'écran de notre enfant. Est-ce qu'il y a des contrôles parentaux qui sont meilleurs que d'autres?
Ouais, il y a tout type. C'est un peu difficile. Après, c'est vrai que ça dépend un petit peu ce qu'on recherche. Si vraiment on a envie de tout bloquer, alors après ça bloque effectivement énormément. Ou il y a des contrôles qui sont plutôt peut-être pour gérer le temps d'écran. Après, ça dépend un petit peu de l'objectif des parents. Mais c'est vrai que quand ils sont petits, maintenant on sait que on met des enfants de 4 ans devant une tablette, même des fois plus jeunes. Là, pour moi, il faut être le plus restrictif possible. On bloque le maximum. Comme ça, l'enfant, si à un moment donné, il tape ou il y a un truc qui s'ouvre et puis il clique, etc., là, il faut le protéger. Il faut le protéger au maximum. Mais c'est vrai qu'après, en grandissant, on leur ouvre. On doit ouvrir peu à peu l'accès. Puis si on les autorise à faire des jeux, puis après on les autorise à aller sur les réseaux sociaux, on n'arrive pas à tout bloquer. Pour moi, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut absolument en parler en amont.
C'était la question que j'allais vous poser justement maintenant. C'est, est-ce qu'on peut partir du principe en 2024 que c'est impossible de contrôler ce que voit un enfant, ou plutôt un ado qui commence à être vraiment indépendant dans sa manière d'utiliser un attel, les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut partir du principe en 2024 que c'est impossible de tout contrôler?
Exactement. Je vous dis, oui, c'est impossible. Et puis en plus, peut-être qu'il ne va pas le voir sur son téléphone, mais il va aller le voir sur celui du copain, ou vous voyez ce que je veux dire, dans d'autres... Il y a partout des écrans. Puis comme vous le disiez tout à l'heure, je veux dire, aujourd'hui, dans ce temps, en temps de conflit et tout, il y a des images que vous allez voir, auxquelles vous allez être exposés. Et puis, on part du principe que c'est de l'actualité, que c'est ce qui se passe dans le monde, mais qu'elles peuvent être terriblement choquantes, selon qui la regarde et dans quel contexte et avec quel... J'ai envie de dire avec quel recul. Donc oui, on peut aujourd'hui, non, on ne peut pas contrôler.
Autre point très important qu'on a survolé pour l'instant, c'est cette question de la sexualité. Quand on commence à devenir curieux vers l'adolescence, qu'on se pose des questions, qu'on découvre des choses, de plus en plus, c'est vers Internet qu'on se tourne. En quoi c'est problématique ?
Alors, vous parlez d'adolescence, mais vous savez, souvent, nous, on a des parents qui nous téléphonent. Les enfants ont fait des recherches bien plus jeunes, 8 ans, 9 ans, c'est les derniers exemples que j'ai en tête. C'est comment on fait des bébés, où on va taper zizi, où on a entendu un terme tout simplement testicule, vagin. Vous voyez, ils ont cet outil, ils y vont. Donc, ils vont aller sur le moteur de recherche. Et en règle générale, c'est pas que, effectivement, des sites d'éducation sexuelle sur lequel l'enfant va tomber. Donc le problème, il est là. Le problème, il est que l'enfant va être confronté à des images ou confronté à des outils, voire même du matériel, mais qui ne s'adresse pas à leur âge, à leur, où ils en sont au niveau du stade de développement. Donc c'est la raison pour laquelle comme on le disait tout à l'heure, il faut absolument leur en parler. Et puis peut-être qu'en termes de sexualité, c'est d'aborder cette question avant que Internet le fasse.
Oui, on en revient encore à ça. Ils iront de toute façon sur Internet, mais il faut compléter cette navigation sur Internet avec une discussion. C'est ça, entre l'enfant et parents. Pas croire qu'Internet va briser le lien entre l'enfant et le parent, mais justement se servir d'Internet pour renforcer encore plus ce lien entre le parent et l'enfant.
Ça peut être un outil tout à fait où on peut renforcer la discussion, on peut aller voir ensemble, on peut aller chercher ensemble, c'est un véritable outil de discussion. Et puis d'être vraiment disposé, disponible pour répondre aux questions, pour répondre si jamais l'enfant a vu quelque chose qu'il n'a pas compris. Pour moi, ça c'est vraiment primordial. Malheureusement, souvent les enfants nous disent... Alors, ils ont deux soucis. Bon, j'ai envie de dire un plutôt, c'est qu'on leur enlève leur outil. vraiment le retrait, quoi, le fait que... Donc, avec cette inquiétude qu'on va leur enlever leur jeu, qu'on va leur enlever leur smartphone, ils ne vont rien raconter. Alors, donc c'est pour ça que je dis en termes de pédagogie, de dire, ben voilà, s'il se passe quelque chose, je vais te retirer ton téléphone. Non, c'est plutôt, écoute, s'il se passe quelque chose, on en discute, on en parle, puis après, on verra ta responsabilité, puis voilà, où est le problème? Est-ce que le problème, c'est toi qui l'as créé, parce que justement, t'as un usage déraisonné, etc. et tout, donc oui, on va peut-être t'enlever ton téléphone, ouais, mais... Souvent, les enfants nous disent non, je vais rien dire, je vais rien faire, parce qu'ils vont penser que je l'ai fait exprès, que je suis allée chercher ce genre d'image. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent rien du tout. Ils restent avec ces infos, ces images dans la tête. Et puis après, ben voilà, ça provoque des enfants qui font des cauchemars, des enfants qui sont pas bien, qui vont développer d'autres pathologies, quoi.
On en revient à ce qu'on dit depuis le début, discussion plutôt que répression. En tout cas, dans un premier temps, c'est important de prendre en compte aussi ce qu'a ressenti l'enfant, ce qu'a pensé l'enfant en voyant tout ça, plutôt que peut-être le punir directement. Il y a aussi tout un travail à effectuer donc dans la discussion, dans l'échange avec l'enfant. Autre point, peut-être le dernier, on va dire, des points principaux qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les jeux vidéo. C'est quelque chose qui explose depuis 20 ans, on va dire, maintenant. Moi, j'ai grandi avec. Alors, à l'époque, c'était des pixels, hein, c'était des choses pas du tout réalistes. Maintenant, quand on voit les jeux vidéo en 2024, j'ai presque envie de dire que c'est bluffant, tellement c'est beau. Parfois, on a du mal à faire la différence entre ce qu'on voit dans la vie de tous les jours et puis les jeux vidéo. En quoi les jeux vidéo sont problématiques pour les enfants et les adolescents?
Moi, je vais juste reprendre un mot que vous venez d'utiliser, quoi, bluffant. C'est ça, c'est bluffant. C'est quand vous êtes devant certains jeux, je veux dire, moi, je ne suis pas joueuse, mais je suis des fois émerveillée. Ou j'ai vraiment, en termes de, je dirais, qualité, en termes de contenu, en termes, c'est juste extraordinaire. Donc, vous imaginez si vous aimez jouer, on vous propose de tels jeux. Et puis en plus, maintenant, c'est hyper immersif. En plus, il y a du plaisir, il y a du divertissement et tout. Donc, ça aussi, il faut que les parents le comprennent, les professionnels aussi doivent comprendre. Je veux dire, si vous êtes joueur, bah, y a ce plaisir, le plaisir de jouer aussi avec les autres, il y a le plaisir de, je dirais, on gagne. Donc, il y a d'échanger, de peut-être, selon les jeux, hein, vous allez avoir des jeux collaboratifs, c'est ensemble qu'on va réussir une quête et tout. Donc, tout ça, c'est, il y a énormément de points positifs. Où effectivement, ça va commencer à poser problème, c'est quand ce jeu prend toute la place et qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Et on sait en tout cas, alors après, quand on est adulte, puis on y joue, puis on veut y jouer beaucoup, mais on sait pertinemment qu'un enfant a besoin d'autre chose pour grandir, pour s'épanouir. Donc, selon l'âge, bien entendu, oui, il peut jouer aux jeux vidéo, pourquoi pas, mais il va falloir lui proposer des alternatives. Je dis proposer parce que c'est un peu le job du parent, puis c'est le job souvent, il va falloir l'extraire du jeu, puis lui proposer d'aller, on va sortir, on va à l'extérieur, on va aller jouer au tennis, on va aller jouer au parc. Vous voyez ce que je dis ? Donc ça demande un véritable, je sais aussi, j'en suis consciente, aux parents de devoir les extraire, devoir leur proposer des alternatives. Mais ça, je pense que ça se fait depuis tout petit. Parce qu'un enfant, vous parlez des jeux vidéo, mais un enfant qui va regarder la télé ou qu'on met devant une tablette, lui, il va regarder, et puis quand on va lui enlever, ça va être... la crise, par contre, si vous lui offrez une alternative où il va aussi avoir du plaisir dans l'échange, dans le jeu, il va être preneur, l'enfant. Donc, s'il grandit avec ça, en disant, OK, il y a un temps écran, il y a un temps où on va jouer à l'extérieur, il y a un temps où on va manger, un temps où on fait les devoirs, etc. Il faut absolument que ce temps de jeu, si on reprend le jeu vidéo, soit une activité comme une autre. On doit la traiter comme une autre. Comme il va jouer à l'extérieur, il joue au foot, il fait une activité artistique, créative, etc. C'est exactement la même chose. Et c'est le sens, ça c'est extrêmement important, le sens qu'on y met. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au jeu de son enfant ou de son ado. Il joue à quoi? Puis pourquoi il joue? C'est quoi la motivation derrière? Je vous donne un exemple, Fortnite. Beaucoup, de parents nous ont beaucoup questionnés par rapport à ce jeu. Et il y en a qui disent « Oui, j'ai pas envie qu'il y joue parce que c'est un jeu de guerre, etc. » Puis souvent, je disais « Mais est-ce que vous avez demandé à votre enfant s'il jouait parce que c'était un jeu de guerre ?» Et puis souvent, la réponse des enfants, c'est « Je joue parce que tout le monde y joue. » Parce que tout le monde en parle à l'école. Puis je suis le seul qui ne sait pas, ne peut pas jouer, puis j'ai l'air bête, et puis je suis exclu, etc. Donc ça aussi, c'est important de se dire « Mais pourquoi il joue à ce jeu ?» Et souvent, ça va permettre aussi d'un petit peu dédiaboliser. Non, mon enfant n'est pas juste il a envie de massacrer tout le monde et puis il est intéressé par les jeux de guerre. Après, selon le type de jeu, ben, il va y avoir aussi la quête qui est derrière, hein, l'objectif du jeu. Et puis, s'il joue avec ses copains, avec qui, comment, voilà. Donc ça, c'est, pour moi, c'est votre enfant, il veut une console de jeu, ok. Tu veux jouer à quoi? C'est quoi le but? Et puis, voilà. Après, je vais revenir, aborder la question du cadre, mettre un cadre, mettre des limites, quoi. Et plus on les met tôt, plus l'enfant, il sait que ben, le jeu vidéo, la télévision ou tout autre écran, ce n'est pas open bar. Je ne veux pas me servir comme j'ouvre le frigo. Ben non, il y a déjà une raison pourquoi je joue, puis quand est-ce que je joue. Et puis, il y a aussi, entre guillemets, des obligations. Moi, je dis toujours aux parents, ben, dites-leur, il faut que ce soit, tu joues, ok, mais est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu m'as aidé à débarrasser la table? Voilà. Et puis, ça, si on le fait depuis le début, ben, l'enfant, il grandit comme ça avec ses règles. Alors, bien sûr qu'il va les négocier, puis j'espère qu'il va les négocier. Et puis c'est là où c'est intéressant. L'ado qui explique, ou même un plus jeune qui explique, hein, pourquoi il doit jouer plus longtemps, pourquoi il faut lui donner 2 heures de plus. Et là, de nouveau, on est dans... Le parent comprend l'importance du jeu, comprend pourquoi l'enfant veut 2 heures de plus, et on arrive à y donner du sens, et puis de trouver après de comment aménager son emploi du temps pour que papa, maman sont contents, et puis l'enfant, l'ado aussi.
Merci beaucoup Tidiana Bellucci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore pour nous parler de tout ça. C'est passionnant, hein. C'est un sujet qu'on pourrait développer pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à comprendre aussi par rapport à cette utilisation d'Internet, à cette utilisation des jeux vidéo aussi. Et on va continuer à parler, hein, d'ailleurs jeux vidéo et enfants lors du prochain épisode de Genève, c'est vous qui vous sera consacré, parce qu'il y a un point des jeux vidéo qu'on n'a pas encore abordé Tidiana Bellucci ensemble, c'est que contrairement aux réseaux sociaux où les enfants sont assez passifs, ou même quand ils sont devant la télé, ils sont assez passifs. Eh bien, les jeux vidéo, ils sont acteurs et ça peut changer beaucoup de choses. On va parler de ça dès le prochain épisode de Genève, c'est vous qui vous sera consacré. En attendant, pour patienter, nos auditeurs peuvent retrouver celui-ci ainsi que les 3 précédents avec vous, Tidiana Bellucci, ou alors avec toutes les autres associations qui sont passées par nos studios pour enregistrer une émission avec nous. Eh bien, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet radiocité.ch ou encore sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn.